Nous bénissons aussi ceux et celles qui peut-être parmi nous sont parmi nous ce matin de passage, peut-être pas, peut-être qu'ils sont venus pour jeter aussi leur ancre dans notre belle Maine. Vous savez que la Maine doit certainement faire partie des rivières les plus petites de France. Hein. C'est combien de kilomètres la Maine? 5? Bon, voilà, vous n'avez pas révisé vos leçons, ça c'est pas normal. C'était ça mon message, c'était l'interrogation orale, mais non. Voilà, pour être un peu plus sérieux, il y a 2 semaines avec vous, j'ai développé ce thème d'aller vers les âmes perdues. Je disais que c'est la mission. Voilà, les commentateurs de la Bible appellent cela la grande commission. C'est Jésus n'a cessé de répéter. Ce sont les paroles de Jésus qui résonnent, voilà encore, même dans nos cœurs, nous qui n'avons pas été le jour où il a été enlevé au ciel. Et ces paroles résonnent encore, même dans notre génération. Elles ne cesseront de résonner à travers toutes les générations qui vont passer sur la terre jusqu'à ce que Jésus revienne un jour. Et lorsque Jésus nous dit, voilà, de pouvoir être ses témoins dans ce monde, Jésus ne nous laisse pas orphelins. Vous savez qu'un jour, parce qu'il annonçait sa mort, sa crucifixion à ses disciples, eh bien, du coup, ils ont été tristes parce que Jésus leur a annoncé, bien sûr, quand on a un ami, un maître comme Jésus, forcément, on n'a pas envie qu'il s'en aille. Il y a des amis à qui on a envie de vite tourner le dos, mais pas Jésus. C'est un ami fidèle, il est tendre, plein de douceur. Et alors que l'échéance de la croix approchait, il va informer ses disciples de ce qui va se passer. Et là, les disciples vont être tristes et il va leur dire, mais non, ne soyez pas tristes. Il vous est avantageux, c'est quand même bizarre. Vous savez, vous avez un ami que vous aimez bien, alors que vous souffrez peut-être de la séparation avec lui, avec elle, l'ami va peut-être changer de ville, ne va plus travailler sur Angers où vous vivez, il ou elle va aller dans une autre ville, peut-être même dans un autre pays. En ce moment, c'est un peu la mode, c'est le Canada et l'Australie. Voilà, on va au Canada, ou en Australie, ou je ne sais pas. Et puis vous êtes là, vous êtes dans un déchirement parce que votre ami s'en va. Et puis lui de vous dire, ah ben non, c'est avantageux que je m'en aille. Vous dites, mais là, quand même, est-ce qu'on était vraiment amis ou est-ce qu'il me considérait vraiment comme un ami? Parce que c'est jamais bon pour des amis de se séparer. On aime partager des moments ensemble, on aime se voir régulièrement. Et Jésus vivait de cette manière-là avec ses disciples. Ils étaient avec lui tout le temps. Forcément, quand est venu le moment de la séparation, celui-ci fut forcément douloureux. Et Jésus va leur dire, il vous est avantageux. Pourquoi? Parce que Jésus, étant limité dans un corps humain, ne pouvait pas faire tout ce qu'il devait faire. Ce n'était pas parce qu'il en avait marre des disciples. Ah ben non, comme disent les jeunes, il ne les blairait plus. Ça y est, quelqu'un a compris quelque chose là? Ah, c'est pas simple. J'ai acheté le dico des jeunes. Non, il aimait ses disciples. Et Jésus... Il fallait qu'il retourne, il fallait qu'il aille au ciel. Et il va leur dire, je veux vous envoyer un autre moi, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est illimité. Jésus était limité dans un corps alors que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Et nous avons vu à travers cette histoire, on va dire de Pierre et Corneille, comment est-ce que Dieu met tout en œuvre pour nous bousculer un peu dans notre confort. Parce que vous savez, les chrétiens, moi ça m'amuse souvent, nous les chrétiens évangéliques pentecôtisants, souvent on croit qu'on est vraiment tout flamme, tout feu, mais c'est une erreur, mais vraiment monumentale en fait. Parce qu'on n'est pas loin des autres, on est comme les autres. On est comme les autres, vous voyez. On est là, on a des conforts, on a des zones qu'il ne faut surtout pas bousculer. Il y a des endroits où il ne faut surtout pas mettre les pieds parce qu'on dit même à Dieu, non, 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 tu peux aller partout, mais pas là surtout. Non, 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 moi là, je ne veux pas. Non, il y a des gens, on est comme ça, on a des attachements à des choses, voilà, qui sont parfois passagères, qui ne revêtent pas forcément une utilité, une grande utilité d'un point de vue divin, mais ce sont des choses qui nous intéressent. On a des choses auxquelles nous sommes attachés comme ça. Et Pierre, dans son mode d'éducation qu'il a reçu de ses parents, avait reçu certaines choses. Et Dieu savait que ces choses qu'il avait reçues de ses parents et de sa tradition religieuse ne pouvaient pas lui permettre d'être un homme ouvert, ouvert aux autres pour annoncer l'évangile, ouvert aux autres pour annoncer cette bonne nouvelle, parce qu'il y avait des restrictions dans la mentalité de Pierre, il y avait des limites dans sa compréhension, bien évidemment, des paroles que Jésus leur avait données en leur disant « Allez !» allez et faites de toutes les nations les disciples. Il y avait là des restrictions dans la mentalité de Pierre. Mais Dieu va mettre tout en œuvre, va tout mettre en œuvre pour pouvoir justement amener Pierre à aller dans cette rencontre de la grâce avec Corneille. Il va se rendre compte que même lui, en fait, était un homme favorisé. C'est ça la grâce, hein, c'est une faveur imméritée. Qu'il ne méritait rien en fait. Que le Dieu qu'il pensait exclusif de son peuple n'en était pas un. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait choisi un peuple pour pouvoir révéler son Fils. C'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que les choses sont parties de Jésus. Et ce matin, j'aimerais poursuivre avec ce même thème, aller vers les âmes perdues. Parce que c'est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Vous savez, un jour, j'étais encore jeune et je participais aux réunions de jeunesse, bien évidemment. Et puis nous avions une réunion. Et puis nous avons formé un cercle avec les jeunes. Et puis nous discutions de beaucoup de choses. Et dans la discussion, j'ai posé une question aux jeunes. Je leur ai dit, d'après vous, s'il y a une personne qui est gravement malade et hospitalisé, quelle serait pour cette personne la volonté de Dieu, la priorité de Dieu? À l'unanimité, ils m'ont tous répondu, mais de guérir la personne. Et c'est normal. Mais c'est faux. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est faux. C'est faux et vrai en même temps. Vous imaginez, quand quelqu'un est malade, le souhait de Dieu, ce n'est pas d'abord. Là, je parlais, vous avez compris, je parlais d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Le souhait de Dieu, ce n'est pas d'abord la guérison. Combien de gens, nous lisons dans les évangiles, Jésus a guéri, et qui malheureusement n'ont pas donné leur vie à Dieu. C'est ce qui fait, frères et sœurs, que nous soyons toujours tournés vers nous-mêmes. Comme je l'ai dit, je ne vais pas le répéter longtemps, je l'ai dit il y a 2 semaines, soit notre christianisme est centré sur Jésus-Christ, soit notre christianisme va forcément être centré sur nous-mêmes. Et si vous remarquez bien les choses, parce que je vous sais honnête, vous allez vous rendre compte que, de plus en plus, même nous qui sommes des chrétiens évangéliques pentecôtistes, notre christianisme est centré sur nous-mêmes. Et il y a un tel paradoxe avec ceux qui ont été les premiers chrétiens. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, on lit le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que finalement on a l'impression que ces hommes qu'on présente plus dans la Bible, mais il faut savoir que les femmes étaient aussi à l'œuvre. Mais c'était dans cette culture, on mettait plus l'homme en avant. Ça n'a pas beaucoup changé. À croire qu'ils ont un petit côté juif, les Français. Et on mettait l'homme en avant et on parlait de l'homme. Quand on parle des miracles que Jésus faisait, il multiplie le pain, on vous dit 5000 hommes. Eh bien oui, mais là c'est sans compter les enfants et les femmes. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ce sont nos besoins qui nous interpellent, qui nous intéressent. Mais Dieu dit non, les choses ne doivent pas fonctionner de cette manière-là. Et pour poursuivre ce matin, j'aimerais qu'on puisse, bien évidemment, faire un focus sur un texte important du Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon théologique, la prière sacerdotale. La prière que Jésus va faire dans Jean 17. On va regarder ensemble, parce que quand Jésus, moi, quand j'ai lu pour la première fois le texte de Jean 17, je n'ai pas voulu l'appeler la prière sacerdotale. J'ai appelé ça le bilan. Jésus fait son bilan à son Père. Est-ce que nous, ce matin, nous serions capables de nous arrêter les uns les autres? Si Jésus apparaissait là, il en a la capacité. S'il apparaissait là et nous demandait à chacun, à chacune, « Fais-moi un bilan de ta vie depuis que tu es devenu mon enfant. » Que lui dirions-nous? Oh, certains vont lui dire, « Ah, Seigneur, moi je viens à toutes les réunions de la semaine. Alléluia. Ah, Seigneur, tu sais, moi je fais ceci à l'église. C'est bien, mon enfant. Moi je fais telle autre chose. C'est super. » Et quand Jésus va noter, il va dire, « Bon, ce que tu fais là, tous les religieux le font aussi. » Est-ce que vous savez que les religions vont aussi, les religieux vont à leur rencontre? C'est pour ça qu'on est classé parmi les religieux, parce que nous avons des actes, nous avons des actes comme des réunions que nous faisons semaine après semaine. Mais je crois que quand Dieu parle du christianisme, il parle d'abord de la relation qu'un homme, qu'une femme sur cette terre doit avoir avec lui à travers son Fils Jésus-Christ. Il ne parle pas d'abord des choses que nous sommes en mesure de faire. Il ne parle pas d'abord des choses que nous sommes capables de faire, même pour lui. Parce que certains croient que Dieu va nous aimer parce qu'on fait des choses. Ça, ce n'est pas le christianisme. La Bible nous dit que Dieu nous a aimés, nous étions encore pécheurs. Dieu ne nous aime pas parce qu'on peut... Non, vous pouvez épater Ulrich, vous pouvez épater Xavier. Mais Dieu, la Bible dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant pour lui? Non. Il n'y a rien qui soit étonnant pour Dieu. Dans cette prière de Jésus, il y a deux parties principales. Et comme vous le savez, dans la Bible, il y a de remarquables prières, en particulier dans l'Ancien Testament, où on peut trouver par exemple la prière d'un homme, voilà, comme Abraham. Vous savez, Abraham dans Genèse 18, lorsqu'il va vraiment intercéder auprès de Dieu, en fait pour le salut de son neveu Lot et sa famille qui étaient à Sodome et Gomorre. Nous connaissons aussi des prières comme celle de Moïse, Moïse le grand intercesseur, qui va se placer entre Dieu et le peuple d'Israël, parce que le peuple avait péché contre Dieu en faisant fabriquer un veau d'or par Aaron. Dieu va dire, mais ce peuple est tellement rebelle, je ne vais plus moi-même l'amener en terre promise. Je vais laisser un ange les accompagner. Et Moïse le dire à Dieu, ah ben non, si tu ne viens pas avec nous, on n'ira pas. Moïse intercède, où nous avons aussi cette prière, voilà, de Salomon, dans le premier livre des rois. Vous savez, quand Salomon devient roi, il va décider d'aller chercher tout ce qui est de l'alliance avec Dieu à la maison de David, parce qu'il a construit le temple, et il va amener les choses. Et la prière qui fait monter, alors que les choses sont réunies, là dans le temple, c'est une prière extraordinaire. Mais toutes ces prières ne sont rien à côté de la prière de Jésus, dans Jean 17. Elles ne sont rien à côté de cette prière. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter un moment sur cette prière que Jésus a faite. C'est une prière dont le contexte est particulier parce que Jésus sait que la croix approche. Il sait que la croix approche et il est en train de laisser petit à petit son testament. Il est en train de laisser, il est en train de parler avec ses disciples. Les choses que jamais Jésus n'avait abordées avec ses disciples, il va les aborder au fur et à mesure que la croix approche. Il va les aborder pour prévenir ses disciples, pour les mettre en confiance. Et là, dans les 5 premiers versets, bien sûr, de cet évangile, la Bible nous dit, après ces paroles, mais quelles paroles en fait ? Après les paroles qui clôturent en fait le chapitre 16. Et vous savez, les paroles qui clôturent le chapitre 16, la phrase du moins, ce sont les paroles de Jésus. Il dira, « Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus dit donc, pour encourager, on peut dire qu'il n'était pas doué humainement parlant. Hein? Vous allez souffrir, mais prenez courage. Et dis donc, Jésus, tu aurais pu quand même arrondir les angles en disant, bon, vous allez voir, il y aura des moments un peu pénibles, mais bon, voilà, moi j'ai tout fait, j'ai fait le boulot, j'ai fait le taf, maintenant vous allez voir, les choses vont bien se passer. Non, Jésus dit la vérité, il dit, vous allez souffrir. Est-ce que vous aimez souffrir? Non. Non. Vous savez, frère, un homme appelé Pierre, lorsque Jésus a été arrêté, il a renié son maître. Et quand ses yeux, son regard a croisé celui de Jésus, il a éclaté en sanglots, il a pleuré comme un bébé qui n'avait pas mangé depuis le matin. Mais ce même Pierre, c'est lui qui, dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'il est frappé avec Jean, il est mis en prison. C'est lui qui sort de la prison, en train de danser, de sauter comme un cabri. Il dit, je suis heureux. Je suis heureux d'être persécuté pour la parole de mon maître. Je suis heureux d'être persécuté pour le nom de mon maître. C'est étonnant. Alors que nous, eh bien non, nous, tout ce que nous voulons, c'est une vie que Dieu ne nous a jamais promise. C'est ça que nous voulons. Et c'est ce qui fait que les gens ne peuvent plus, ne se bougent plus, parce qu'ils ont peur. Ils se disent, ah oui, si je fais ça, le diable, il va m'esquinter. C'est ça, les gens ont peur. Si vous avez peur du diable, c'est que vous ne faites pas confiance à Jésus. Moi, je n'ai pas de force, mais je sais que celui qui est en moi. Ah, c'est ma plus grande force, c'est mon assurance. C'est pour cette raison qu'à chaque fois, je dis, le diable, tu es un petit. Parce que celui qui est en moi est plus fort que toi. Il est plus puissant, il est plus grand que toi. Je ne compte pas sur ma force. Ce même Pierre, il dit, je suis heureux. Et nous n'aimons pas la souffrance. Jésus dit, vous allez connaître la souffrance. Mais prenez courage, j'ai vaincu. Dans les 5 premiers versets, bien sûr, Jésus va introduire sa prière étonnamment en priant pour lui-même. Jésus va dire, il va lever les yeux vers le ciel et il va dire, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à aller au ciel par la comète spatiale, je ne sais pas quel numéro. Mais c'est ce que les chrétiens disent toujours. Que la vie éternelle, c'est aller au ciel. Ce n'est pas ce que nous attendons. Si la vie éternelle, c'est aller au ciel, ce qui est un souci. Aller au ciel, c'est la conséquence de la vie éternelle. Si tu n'es pas sauvé, tu ne vas pas auprès de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Jésus se prépare pour la croix. On a l'impression que Jésus, quand il parle de cette manière-là, c'est comme si l'œuvre était achevée. Non, mais Jésus sait qu'il ne va pas fuir la croix. Jésus sait qu'il va y aller jusqu'au bout. Et Jésus parle ainsi à son Père. Il lui dit, maintenant les choses vont se concrétiser. Maintenant l'humanité va revenir à toi, du moins pour tous ceux et toutes celles qui vont accepter le message que je suis venu leur apporter. Ils vont revenir à toi. Parce que je vais aller jusqu'au bout. Sur le bois de la croix, je vais donner ma vie. Je vais me sacrifier pour l'humanité. Parce que tu m'as donné tout pouvoir. Vous vous rappelez, ce sont les paroles hein, que Jésus donne aussi aux disciples hein, dans Matthieu 28. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est à ce moment-là qu'il va leur dire, parce que j'ai tout pouvoir, allez et faites de toutes les nations les disciples. Le Père et le Fils sont d'accord pour la crucifixion. Lisez Ésaïe. Vous allez comprendre. Ésaïe va dire, qui a reconnu la main de l'Éternel? Nous, on voyait, c'était un moyen, les Juifs n'ont été qu'un moyen, Judas a été un moyen par lequel, mais les choses avaient déjà été arrêtées. Jésus a d'abord été immolé dans les cieux avant de venir concrétiser le fait d'avoir été immolé dans les cieux. Quand Jésus vient sur le bois de la croix, c'est parce que les choses se sont déjà actées dans le ciel. Jésus est d'accord avec son Père. Il dit, le deal que nous avons passé, il va enfin se concrétiser. Je vais donner ma vie pour l'humanité. Ils sont tous deux d'accord. Et Jésus va donner la définition claire de ce que c'est être sauvé. C'est de connaître Dieu. Ginosko, ça n'a rien à voir avec une connaissance théorique. Non, c'est le fait véritablement d'avoir une relation avec Dieu. Une relation intime avec Dieu. Pas au sens intime que nous connaissons, mais véritablement une relation. Jésus va dire, mais j'ai montré ta gloire à toute la terre. Mais quelle gloire! Quelle gloire! Jésus, dans tout ce qu'il faisait, il ne manifestait ni plus ni moins que le caractère de son Père. C'est pour cette raison qu'un jour, lorsqu'un disciple va lui dire, montre-nous le Père, vous savez ce qu'il va lui répondre? Mais depuis que tu es avec moi, tu n'as pas encore vu le Père? Il dit, mais celui qui m'a vu a vu. Ma façon de me conduire n'est qu'une manifestation de ce qu'est le Père, de qui est le Père. L'amour que j'ai, même quand les gens m'insultent, même quand mes ennemis sont en déroute et qui viennent me solliciter, comme Jaïrus, qui faisait partie de ceux qui ne voulaient pas m'accueillir dans les synagogues, mais quand sa fille de 12 ans est malade et qu'ils viennent à moi, je ne lui dis pas non, Jaïrus, parce que je t'en veux du fait que vous ne vouliez pas que j'annonce l'évangile. Non, j'y vais tout de suite, parce que ça, c'est le caractère du Père. C'est le caractère du Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi qui fait ses œuvres. Je ne les fais pas de moi-même. Je fais ce que je vois le Père faire. Je suis un imitateur. L'attitude de Jésus n'était ni plus ni moins que la manifestation du caractère de Dieu. Les œuvres de Jésus, la guérison, la restauration, les délivrances que Jésus opérait n'étaient ni plus ni moins que la manifestation de la gloire de Dieu, de qui est Dieu véritablement. C'est ce que Jésus a fait pendant toute sa vie. Et c'est pour cette raison qu'il va dire à son Père, « J'ai révélé ta gloire à toute la terre. La terre a vu que je suis venu de toi. » Et il va dire, « J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. » Vous savez, d'un point de vue humain, quand les hommes regardent ce que Jésus a fait, nous, nous sommes chrétiens et nous nous réjouissons. Mais quand les hommes regardent, vous savez, Jésus, par exemple, il a annoncé l'évangile pendant son vivant, lorsqu'il était physiquement sur la terre. Il a annoncé l'évangile. Mais vous savez que le jour de la Pentecôte, il n'en restait plus que 120. C'est étonnant, hein? Alors qu'il était suivi pendant son ministère terrestre par de nombreuses foules qui le suivaient partout. Et là, il n'y a que 120. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc Jésus a échoué, c'était un mauvais évangéliste. C'est ça que nous allons voir, mais vraiment, le cœur de ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est cela, frères et sœurs. Si nous ne comprenons pas la stratégie du maître, nous ne pouvons pas être des bons témoins. Jésus avait une stratégie avec son Père. C'est pour cette raison qu'il lui dit, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. J'ai achevé. Pourtant, la vie de Jésus ressemble à un échec. Les gens lui ont dit, tu meurs sur le bois de la croix comme un brigand. Et tu dis que c'est toi le Messie. Les Juifs ont dit, c'est un scandale. Et les Grecs ont dit, c'est pas possible, c'est une folie. Et les Romains ont dit, c'est de la rébellion. Nous, c'est César qui est l'empereur, c'est lui notre roi. Et toi, tu oses dire que tu es roi. Et c'est quel type de roi qui vient mourir de cette manière à la croix? Ce n'est pas un roi. Ce n'est pas un héros. Parce que le Messie que nous on attend, c'est un chef de guerre. C'est un chef de guerre, c'est un général en chef. C'est quelqu'un derrière qui nous allons nous poster pour pouvoir aller mener les guerres contre tous les pays, contre tous les royaumes, les empires alentours, pour reconquérir bien évidemment la liberté d'Israël, pour mettre les Romains hors de l'État d'Israël. C'était cela que les Juifs attendaient. Mais le Messie que Dieu envoie, c'est un Messie qui est faible dans l'humanité. Elle a revêtu l'humanité. Et là, sur le bois de la croix, il meurt comme un brigand, en compagnie des brigands. Les gens disent, c'est pas possible, ce n'est pas lui. C'était sans compter sur le deal que le Père et le Fils avaient fait. 3 jours après, alors qu'ils l'ont laissé dans le tombeau, j'imagine Satan avec ses démons en train de danser. En train de dire, ça y est, tu vois, lui, ça fait 3 ans et demi, on était tranquille. Sur la terre, depuis 3 ans et demi, ce jeune homme-là, il n'a pas arrêté de nous enquiquiner. Il nous a perturbés, il nous a chassés des gens dans lesquels nous étions. Il a guéri les maladies, même les gens qu'on tenait vraiment liés, il les a guéris. Il a même ressuscité les morts. Et puis là, j'imagine, il y en a un qui était là, qui avait participé dans la maladie de... Vous voyez, vous comprenez, c'est un peu Hollywood ce matin. Qui avait participé dans la maladie de Lazare. Lazare qui était mort, et lui de dire à Satan, écoute, il y a une chose, moi je ne suis pas sûr que les choses vont se terminer. On est en train de festoyer, je crois qu'on est un peu trop rapide dans l'histoire. Attendons de voir. Parce que lui, je me rappelle, Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Il a seulement dit, Lazare sort, et Lazare est sorti. Et vous croyez que lui qui a fait sortir Lazare avec sa parole, il va rester pour toujours dans le tombeau. Ce n'est pas possible, patron. C'est pas possible. Il va sortir, Jésus. Il va sortir, forcément. Et le 3e jour, la lumière de Dieu éclaire. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus revient dans ce corps. Et Jésus est ressuscité. Il va vaincre la mort. Et Satan dit, mais ah oui, d'accord, maintenant je comprends. Je n'avais pas vu ce plan. Moi, je m'attendais à une bataille, à une bagarre, à un combat. Et là, il m'a eu. Parce qu'il est passé par la faiblesse humaine pour m'avoir. Moi qui pensais, qui croyais que ça allait être un combat féroce. L'amour. Jésus a vaincu par l'amour. Frères et sœurs, Jésus va faire demander ces choses. Il va dire à son Père, voilà, maintenant je reviens vers toi. Je sais que ma place m'est réservée et je vais réoccuper à nouveau cette même place. Poursuivons la lecture maintenant. Vous aimez les études de texte? Moi, j'ai dû faire ça pour le concours d'entrée en 6e. On faisait les études de texte. Lisons les versets 6 à 8 maintenant. C'est la suite. Jésus continue en parlant à son Père. Il dit, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voici ce que Jésus dit sur les disciples. Il parle là de ses disciples. Vous savez que Jésus, lorsqu'il va commencer son ministère, il y a beaucoup d'hommes et des femmes qui vont le suivre. Et à un moment de son ministère, il va passer un temps dans la prière, un temps, c'est vraiment minimiser ce que Jésus a fait parce qu'il a passé toute une nuit en prière. Oh, et puis nous, dans notre modernité, on dit, oh non, c'est pas le temps de prière qui compte. Non. Ce n'est pas parce que tu vas rester pendant tel nombre d'heures dans la prière que Dieu va t'exaucer. Non. Pourquoi ne reste pas longtemps dans la prière? Mais justement, parce que tu ne peux pas, même si tu as une liste qui commence d'ici jusqu'à ce mur, mais à un moment, tu vas la terminer. Mais si c'est parce que tu aimes la présence de Dieu, tu peux rester dans cette présence sans lui demander quoi que ce soit. Tu peux contempler sa grandeur. Tu peux contempler sa magnificence. Tu peux laisser Dieu ouvrir ton cœur, tel un chirurgien, pour te montrer, regarde mon enfant, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à changer, mais nous n'aimons pas cela. Nous venons avec notre caddie, Seigneur, remplis dès qu'il est plein, ou à la caisse. Si c'est ça, c'est normal qu'on ne peut pas rester. Vous savez, c'est une histoire vraie. C'est Yonggi Cho qui la raconte. Vous connaissez un peu tous Yonggi Cho. Il la raconte, il y avait une conférence en Corée et des pasteurs étaient venus de tous les pays, de tous les continents d'ailleurs. Ils sont arrivés. Et puis Yonggi Cho les a invités à un temps de prière. Alors, il les a invités et puis il s'est rendu compte qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les gars, la majorité de ceux qui étaient là ne suivaient plus. Il leur a dit, mais comment ça se fait qu'en 10 minutes, un quart d'heure, ils lui ont dit, mais Yonggi, mais dis-nous, qu'est-ce que tu dis après à Dieu, au bout de 10 minutes, qu'est-ce que tu as encore à lui dire? Tu n'as plus rien à lui dire normalement. Et là, Yonggi Cho leur répond en disant, rien qu'avec la prière, le Notre Père, tu passes au moins une heure avec Dieu. Ils ont dit, mais Yonggi Cho, comment tu fais ça? Il leur a dit, mais il n'est pas question de répéter la prière. Si tu suis ce squelette-là seulement, rien que le temps que tu prends pour adorer Dieu, tu ne comptes pas. Vous savez, les chrétiens, nous, on prie avec le compte à rebours. On dit, ben, je vais prier 15 minutes. Non, la prière, c'est plus que cela. Jésus est resté toute une nuit pour choisir ses disciples. Et c'est pour cette raison que Jésus est en train de dire à son Père, écoute, Père, ce sont les hommes que tu m'as donnés. Ils t'appartenaient. Ils n'appartiennent pas à Jésus. Ils t'appartenaient à toi. Tu me les as donnés. Il fait le compte-rendu de sa mission parmi les disciples. Quelle était la mission que le Père lui avait donnée parmi les disciples, surtout auprès des 12, ou du moins le 11, parce que même, vous savez, l'autre, je ne sais pas comment il a fait, mais bon. Jésus fait allusion de ces 3 années et demie de ministère avec ses disciples. Il fait allusion à cela, à tout ce qu'il a enseigné aux disciples, tout ce qu'il a donné. Est-ce que vous croyez que ce que Jésus a donné aux disciples, c'était plus à travers ce qu'il leur disait? Non! Les disciples ont plus appris de Jésus par son attitude, sa façon de vivre. C'est là qu'ils ont le plus appris de Jésus. C'est pour cette raison que Jésus, dès qu'il les avait embarqués, ils étaient avec lui partout où il allait. Parce qu'il fallait qu'ils voient comment Jésus agissait. Il fallait qu'ils voient comment Jésus se comportait avec les gens. Comment Jésus se comportait même avec les étrangers. Se comportait avec les femmes. Se comportait avec les enfants. Il fallait qu'ils voient tout cela. Parce que dans leur religion, il n'y avait pas de place pour les enfants. Il n'y avait pas de place pour les femmes. Il n'y avait de place pour eux-mêmes, les gros cocos. Il n'y avait pas de place. Mais ils ont vu que pendant tout le ministère terrestre de Jésus, Jésus allait vers tout le monde. Il ne faisait pas de distinction. Ils ont plus appris de l'attitude de Jésus que des paroles que Jésus pouvait leur donner. Non pas ici pour accorder peu de crédit aux paroles de Jésus qui étaient puissantes et fortes, mais ils ont appris de l'attitude du maître. Parce que c'est cela apprendre des maîtres, c'est de copier son maître. La prochaine fois, je le récupère. Il dit, je leur ai enseigné ton nom. Mais enseigner un nom, comment on peut enseigner un nom? Enseigner à quelqu'un, Ulrich. Non, c'est plus que le nom. Vous savez que dans la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, le nom révèle le caractère de la personne. Quand Jésus dit, je leur ai enseigné ton nom, il est en train de leur dire, je leur ai enseigné ton caractère. Mais comment? Par son attitude. C'est ce qu'il va dire à Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quand tu me vois me comporter, c'est la manifestation du caractère du Père. C'est comme ça qu'il leur enseignait le nom de Dieu. Et c'est en ce sens que nous aussi, nous devons considérer l'appel que nous avons reçu. Nous devons imiter Jésus, frères et sœurs. Nous avons reçu le même appel à travers Christ. Cet appel de révéler Christ au monde entier, c'est pour cette raison qu'il nous a greffé dans l'arbre qu'il est, le cep qu'il est. Nous sommes devenus les branches de ce cep. C'est pour révéler qui il est. Vous savez que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Est-ce que vous avez déjà vu le tronc porter le fruit? Qui c'est qui porte le fruit? La branche. Donc c'est notre rôle de révéler Jésus au monde entier. Et c'est en cela d'ailleurs que l'apôtre Paul, plusieurs années plus tard, lui qui n'avait pas vu Jésus physiquement, qui ne l'avait pas rencontré, il va dire ceci dans la deuxième épître aux Corinthiens. Vous connaissez ce texte. Il va dire, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite. Pour quel but ? Par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Nous sommes des lettres. C'est-à-dire, quand les gens nous voient, ils doivent lire Christ. Ils doivent lire Christ, frères et sœurs. Arrêtons de pratiquer un christianisme théorique. Arrêtons d'être des escrocs spirituels, de faire semblant dans ce lieu, alors que nous sommes dangereux chez nous. Les mains que nous levons vers Dieu pour le bénir, c'est avec les mêmes mains que nous battons nos femmes, c'est avec les mêmes mains que nous méprisons, que nous faisons tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas le christianisme. Notre corps est mis à part pour la gloire de Dieu. Si nous levons nos mains vers le ciel, nous devons garder tout notre corps pour la gloire de Dieu. Arrêtons de vivre un faux christianisme. Nous sommes des lettres ouvertes pour révéler Christ, pour montrer au monde entier qui est Christ. À travers notre attitude, nous allons donner aux gens qui nous entourent l'envie de connaître ou de ne pas connaître Christ. Cela dépend de nous. C'était le plan de Jésus. C'était cela son investissement. On poursuit la lecture au verset 9. Et là, Jésus va donner une nouvelle orientation maintenant à sa prière. Et il révèle maintenant la grande stratégie pour le salut des âmes perdues. Il révèle sa stratégie. Il montre maintenant. Et là, nous comprenons mieux pourquoi Jésus ne s'est pas préoccupé de son vivant. Il aurait pu le faire, il avait la capacité. Jésus aurait pu s'établir à Jérusalem et ravir tous les hommes et toutes les femmes de Jérusalem pour faire une méga church. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle Jésus était venu sur la terre. Maintenant, on va découvrir quelle est sa stratégie. La prière de Jésus change. Elle prend une orientation céleste. Et là, au verset 9, Jésus dit, « C'est pour eux que j'ai prié. » Donc, pour qui ? Ceux que Dieu lui a donnés. Il dit, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Toi, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Ça, c'est la stratégie de Jésus. Il est venu s'investir. Jésus savait qu'il fallait que son œuvre perdure. Il a choisi des hommes faibles, et il s'est investi, il s'est dispensé dans ces hommes. Et c'est eux qui ont perpétué l'œuvre de Jésus. Il dit, je ne prie pas, c'est pour eux que je prie. C'est étonnant. Quand on voit ce que Jésus a dit aux disciples avant l'ascension, il dit, mais allez dans toutes les nations et faites des disciples. Et quand Luc rapporte les paroles de Jésus, après son sondage qu'il a fait, il rapporte les paroles de Jésus dans le livre des Actes, il dit que Jésus leur avait dit quoi ? Restez à Jérusalem, vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais donc Jésus, le but de Jésus c'est quoi ? C'est de pouvoir justement faire en sorte que le maximum soit sauvé. Mais comment Jésus peut-il dire, je prie juste pour les 11 là et je ne vais pas prier pour le monde entier ? C'est quand même bizarre. Hein? Est-ce que tout à coup il s'est rendu compte que le monde n'en vaut pas la peine ? Non, ce n'est pas cela. C'est juste que Jésus prie pour ceux qu'il sait qui vont être ses instruments pour justement répandre la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. Il dit, c'est pour eux que je prie. Et cette prière, ces paroles de la prière de Jésus, nous révèlent également le caractère de ce que Jésus va dire un jour. Il va le lire dans l'évangile de Luc, on ne va pas le lire. Mais vous savez, lorsque Jésus va envoyer les 70 disciples, dans Luc 10, le verset 1, il va réunir 70 de ses disciples, et il va les envoyer deux à deux pour annoncer l'évangile, guérir les malades, ressusciter tout ce que vous voulez, chasser les démons. Et au verset 2, il va leur dire, il faut que vous regardiez la moisson. La moisson est comment ? Elle est blanche. Ça dit que les champs sont prêts. Et il dit, priez-le afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. C'est la même chose. Il dit, moi, je prie pour mes ouvriers afin qu'ils soient efficaces dans la moisson. Je prie pour mes ouvriers afin qu'ils perpétuent mon œuvre parce que c'est à eux que revient la responsabilité de poursuivre ce que moi-même j'ai commencé. Il n'y a pas de paradoxe. Puisque Jésus lui-même, dans le même, la même prière, il dira à son Père, « Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé. » Donc Jésus pense bien évidemment au salut de l'humanité. Mais sa stratégie, c'est de s'investir. Et aujourd'hui, de moins en moins, nous nous investissons, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un est capable ce matin de me dire, « Voici, j'ai un fils spirituel, j'ai une fille spirituelle. » Non, parce que nous sommes tournés vers nous-mêmes. Ah non, moi je ne peux pas m'occuper de quelqu'un, bien évidemment. Eh bien oui, parce qu'un fils spirituel, eh bien oui, quelquefois il vous téléphone à 1h du matin et vous n'avez pas envie d'être dérangé à cette heure-là. Ah non. Ah non, vous n'avez pas envie. Hein? Personne n'a envie, vous voyez. Jésus parle de ces choses. Il dit, c'est pour eux que je prie, dans un but bien précis. Jésus va se focaliser sur ses disciples qui vont devenir des instruments puissants comme nous le montre le livre des Actes des Apôtres. Ces hommes qui étaient des hommes de peu d'instruction, des hommes du peuple, mais qui vont devenir, par la force et la puissance du Saint-Esprit, des hommes vaillants, des hommes qui vont aller dans des milieux où ils n'allaient pas auparavant pour annoncer l'Évangile, pour donner aux hommes et aux femmes, bien évidemment, cette espérance. Parce que Jésus savait que le salut du monde dépendait d'eux. Et aujourd'hui, les choses n'ont pas changé, frères et sœurs. C'est sur vous et moi que Dieu compte pour bien évidemment transmettre le message de l'Évangile. Si souvent, même dans nos milieux maintenant, on dit « Ouais, Dieu est souverain, il fait comme... » Non, frères et sœurs, c'est sur vous et moi qu'il compte. C'est à nous, c'est notre taf, c'est notre boulot d'annoncer l'Évangile, de témoigner. C'est le but principal pour lequel le Saint-Esprit nous a été donné. Ce n'est pas pour parler en langue. Non, c'est pour être des témoins. Être des témoins. Je vais avancer un peu plus vite, parce que sinon nous allons rester là toute la journée. Jésus révèle sa grande stratégie qui n'est pas contradictoire, comme je viens de vous le dire, hein, avec... d'autres écrits dans les évangiles, même dans l'évangile de Jean déjà. Vous savez que dans Jean 3 déjà, Jésus va annoncer, il va dire, voilà, Dieu a tant aimé le monde. C'est un verset qui est très bien connu. Ouais, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et vous savez, lorsque Jésus va voir, bien évidemment, ce dialogue, cette rencontre, cette discussion avec celle qu'on appelle la femme samaritaine, alors que cette femme va retourner en ville, elle va dire, venez voir, il y a quelqu'un qui m'a raconté toute ma vie, alors que les hommes avaient cru son témoignage, bien évidemment. Mais quand eux-mêmes vont voir Jésus, ils vont dire à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, parce que nous-mêmes maintenant nous l'avons vu, et nous croyons que c'est vraiment lui qui est le Messie, le sauveur du monde. Ah donc Jésus est le sauveur du monde, il n'y a pas de doute là-dessus. Jésus nous dit que nous sommes ceux et celles qui doivent être ses témoins. C'est pour cette raison qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Alors que Jésus révèle sa stratégie de dire il faut se dispenser dans les gens. Écoutez, nous allons tous mourir, le plus jeune d'entre nous va mourir, mais si nous ne témoignons pas, eh bien, cette assemblée, la responsabilité que nous avons, ben, elle va fermer un jour. Elle va fermer. Oh, bien sûr, nous ne témoignons pas, nous n'évangélisons pas, juste pour que nous maintenions l'assemblée ouverte. Mais c'est parce que c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Aller vers les âmes perdues, aller leur annoncer les bienfaits de la bonne nouvelle, aller leur dire qu'il y a de l'espérance. Allez leur dire que Dieu a pensé à eux. Allez leur dire que Dieu les aime. Allez leur dire qu'au lieu de dire, oh ben non, c'est pas ceci. Dans nos familles, on est des champions, on est des légalistes. On est là, on dit aux gens, oui, on ne fait pas comme ça. Mais qui c'est qui ne fait pas comme ça? Non. Et est-ce que vous avez déjà vu Jésus? Regardez Jésus, est-ce que vous avez entendu, vous avez vu Jésus dire à quelqu'un, on ne fait pas comme ça? Non, parce que la vie est plus qu'une règle morale. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu pour donner la vie éternelle, pas une loi. La vie éternelle. La vie est plus qu'une règle. La vie est plus qu'un commandement. On en a besoin pour définir un cadre. Mais la vie est plus qu'un commandement. Ensuite, Jésus va poursuivre au verset 11 et il va définir trois qualités principales du témoin. Il va dire, désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète ou parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jésus met en lumière trois caractéristiques principales du témoin. Et c'est ce qui fait que parfois notre témoignage n'est pas efficace. La première caractéristique, c'est que nous devons toujours vivre dans la joie du salut. Et vous avez vu que cette joie ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos efforts. C'est une joie qui nous a été communiquée. La deuxième chose, Jésus dit, nous devons être gardés du péché. Si nous vivons comme les gens que nous voulons atteindre, comment allons-nous les atteindre? C'est impossible. C'est impossible, frères et sœurs. Nous devons vivre dans la joie du salut. Nous devons nous garder nous-mêmes du péché. Et nous devons être consacrés à Dieu. Et Jésus dit, c'est la parole qui nous consacre. La consécration, c'est le fait d'être mis à part pour quelque chose. Mis à part pour Dieu, pour le servir. Et quand on appelle mis à part pour Dieu, il n'est pas juste question de dire je fais ceci, je fais cela. Non, ça dit que même toi-même, l'être que tu es, doit appartenir à Dieu. Ton être appartient désormais à Dieu. La parole n'est plus juste question de l'entendre comme ce matin, mais il est question de la méditer aussi. Et il est question de la mettre en pratique. Parce que quand on ne met pas la parole en pratique, elle ne nous sert à rien. C'est comme si on achetait un médicament sans le consommer. On a beau l'avoir dans notre pièce, dans notre maison, sur notre commode, dans, je ne sais pas, le tiroir, je ne sais pas, pharmacie ou comment vous appelez ça. On a beau l'avoir tout cela, si on ne le prend pas, il ne nous apportera aucun soulagement. Vous avez beau dire, oui, Doliprane, je te vois. Lui aussi te dira, je te vois. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est ça la pratique, c'est le fait de prendre le médicament et de l'avaler. Et la parole de Dieu, c'est pareil. On est consacré. Plus on obéit à la parole de Dieu, plus on ressemble à Christ et plus Dieu nous utilise avec efficacité. L'obéissance est indispensable, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas faire l'économie de l'obéissance. Je poursuis parce que... Ensuite, Jésus va revenir. Vous savez, dans la première partie, il va prier. Il va prier son Père. Il va dire des choses bien précises que nous avons déjà vues. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et ensuite, à partir du verset 18, Jésus va parler de quelque chose de tellement important pour lui. Il va parler de l'unité. Il va dire, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, il commence par ça. Je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est capital, frères et sœurs. Quel est le lien qu'il y a entre l'unité des croyants et le fait que le monde reconnaisse que c'est Dieu qui a envoyé Christ? Christ dit, c'est quand ils sont unis, c'est alors que le monde va croire que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit cela à son Père. C'est Jésus qui nous envoie dans la moisson. C'est Jésus qui est le souverain sacrificateur, qui se met lui à part pour nous. Nous sommes en même temps mis à part dans sa mise à part. C'est-à-dire nous sommes sanctifiés par sa sanctification. Et Jésus va dire, la preuve pour le monde que c'est toi qui m'as envoyé, Père, c'est l'unité des croyants. C'est bizarre, hein? Il dit, il faut qu'ils soient unis, parce que s'ils ne sont pas unis, Jésus va dire, si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Jésus parle de ces choses, non pas seulement, il parle en perspective de ce qu'il donne comme révélation à Jean alors qu'il est exilé à Patmos dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, Jean dit, il a vu les hommes et les femmes de toute nation, de toute tribu, de toute, il a vu des hommes et des femmes. Mes frères et sœurs, comment nous pouvons vivre ensemble alors que nous avons des arrière-plans différents? C'est de cela dont Jésus parle. Déjà, même entre les 12 disciples que Jésus, les 12 apôtres, c'était pas simple. Il y a certains qui voulaient être les plus grands. Il y a certains qui voulaient l'un s'asseoir à la droite de Jésus et l'autre à la gauche. Ils n'étaient que 12. Nous sommes 400, au moins 400. Comment on fait alors que nous avons des arrière-plans différents? Ça n'a rien à voir avec le fait de venir d'un autre pays, mais rien que le fait d'avoir vécu dans des familles différentes, nous sommes différents. Et comment on fait pour vivre ensemble? Si nous décidions que ça va être telle culture, et les autres, comment ils font? Jésus n'est pas venu effacer les cultures, mais il est venu pour nous unir au-delà de toutes les cultures. C'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu nous unir au-delà, parce que vos cultures, ma culture et la culture de Xavier ne peuvent pas. On ne peut pas vivre ensemble sur la base de nos cultures. C'est impossible. Quand lui aura envie de manger son camembert de Normandie, moi j'ai envie de manger mon manioc du Gabon. Et je peux vous dire, hein, côté, les deux sont pareils. Hein. Non mais frères et sœurs, il faut que nous comprenions cela. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que les choses qui nous divisent, ce sont les petites choses qui font en sorte que l'ennemi s'engouffre au milieu de nous et qu'il fasse tout son tralala qui nous empêche de vivre la communauté comme nous devions vivre pour justement propager le message de l'Évangile? Ne vous préoccupez pas des gens que vous voyez à l'extérieur. Faites ce que le maître vous demande de faire. Ne vous préoccupez pas. Frères et sœurs, non. Les cultures, elles sont bonnes. Que Xavier mange son camembert. Que Loric mange son manioc. Mais ce n'est pas cela qui doit nous séparer. Ce n'est ni le camembert, ni le manioc qui nous réunit ce matin, je l'espère. Celui qui nous réunit ce matin, c'est Christ. Mais est-ce que Christ dit que les cultures n'existent plus? Non. Lui-même a vécu dans la culture juive. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la fête toute la nuit maintenant, il y a des lois. Parce que les Africains disent amen, ils croient que c'est pour faire la fête la nuit maintenant. Il y a des lois. Je vais conclure, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Hein. Frères et sœurs, l'unité est importante aux yeux de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup et de plus en plus aujourd'hui, les gens refusent le caractère trinitaire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais non, il n'y a pas trois dieux. Mais alors que la Bible nous dit que ce Dieu-là qui se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes distinctes, il dit que, mais elles sont une même personne en même temps. Ça nous embête, hein? Parce qu'à l'école, on nous a dit quand on rajoute les bâtonnets, certains peut-être ont appris à l'époque qu'on disait les bichettes. Non, vous ne savez pas les bichettes, c'est les bâtonnets. Eh bien oui! On a pris, on a dit quand on ajoute 1, 2, 3, 1, 2, 3 bâtonnets, ça fait combien? Alors comment toi tu peux nous dire que 3 bâtonnets font un seul bâtonnet? C'est pas possible. Mes frères et sœurs, ça, c'est ce qu'on appelle Dieu. On ne peut pas comprendre ça avec notre entendement humain. Prenons ces choses-là par la foi. Quand on a la foi, ça ne veut pas dire qu'on est devenu des totos. Non, ça veut simplement dire que Dieu nous invite à vivre par la foi. Le juste vit par la foi. Moi, je n'ai jamais vu Dieu fabriquer, construire le monde. Je n'ai jamais vu Dieu. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher par la foi et doit croire que ce Dieu-là, lorsqu'il lui parle, c'est lui qui le rémunère. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que ni vous ni moi avons vu Dieu placer les étoiles? Bon, nous croyons que Dieu a créé le monde, non? Mais nous croyons par quoi? Alors, pourquoi on va arrêter de croire par la foi? C'est cela, frères et sœurs. L'unité est tellement importante parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis. C'est pour ça que Jésus dit, ce qui est à toi est à moi. Tu es en moi comme je suis en toi. Vous comprenez? Et Jésus dira dans Jean 14, quand le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui va amener le Père et le Fils dans le cœur du croyant. Donc tous les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans le cœur du croyant. Et là on dit, oh là 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 là, il n'y a pas assez de place. Hein. Déjà que je suis à l'étroit chez moi, s'il y a le Saint-Esprit c'est déjà pas mal. S'il faut que le Père et le Fils arrivent ensuite, non. Voyez frères et sœurs, et Jésus va conclure, il va faire une conclusion triomphante. Ce n'est pas une conclusion de quelqu'un qui va mourir sur le bois de la croix, qu'on va lire là. Ce n'est pas possible. Il va sur la croix, mais Jésus dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. » Là, Jésus est en train de parler, quand il avait dit aux disciples, « Je veux vous préparer une place. » Maintenant, il dit à son Père, « Tous ceux qui vont m'accepter sur la terre, ils vont passer l'éternité avec moi. Ils vont être avec moi. » Ils vont être avec moi. Parce que la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Mais moi, je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. C'est une conclusion triomphale, frères et sœurs. Jésus parle des retrouvailles pour l'éternité dans la gloire de Christ. Nous serons avec lui. Malgré la croix qui est la pressante, qui s'approche, Jésus ne doute pas un seul instant de la justice de Dieu. Jésus n'est pas en train de faire des reproches en Dieu en disant « Je vais aller mourir ». Au contraire, il dit « Non, je te fais confiance. Père juste, tu es juste. » Il n'y a pas de souci, je vais sur le bois de la croix, mais seulement ce que tu m'as donné, il faut qu'il soit avec moi pour qu'il contemple ma gloire. C'est-à-dire ma présence, ma majesté, ce que je suis. Pourquoi? Parce que le Père et le Fils sont liés par l'amour. Et donc sont tous les deux pour le sacrifice de la croix. Aujourd'hui, c'est à nous de témoigner et de se dispenser dans d'autres personnes pour pouvoir justement perpétuer le message de l'Évangile. Nous devons aller vers les âmes perdues, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ces choses-là. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié.
On va ensemble partager le pain et le vin. Je vais demander aux personnes qui sont chargées de la